Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Cube Radio. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement.
1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller.
Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société pour vous offrir la meilleure représentation radio.
Sophie Durocher.
Tout un spectacle radiophonique.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'avoir choisi Cube Radio. Vous le savez, à cette période-ci de l'année, on fait des bilans de l'année. On dit les bons coups, les mauvais coups. Et ben moi, j'ai envie de vous dire que toutes catégories confondues, livres, cinéma, télé, théâtre, toutes nationalités confondues, français, anglais, américain, québécois, mon grand, grand, grand coup de cœur de l'année 2022, c'est la série présentée sur Club Illico, La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé. C'est une série qui est réalisée, scénarisée, montée et dans laquelle joue, entre autres, Xavier Dolan. Il est au bout de la ligne. Bonjour Xavier.
Bonjour.
C'est vraiment un plaisir de vous parler, Xavier, parce que je suis pas la seule. Il y a vraiment une immense vague d'amour pour cette série en 5 épisodes présentés sur Club Illico. Est-ce que vous vous attendiez à ça ou ça vous surprend?
Ça me surprend un peu. Les proportions, en fait, sont surprenantes. J'espérais que les gens aiment ça, mais c'est comme... culturellement, il y a un truc qui se passe. Là, les gens qui me disent qu'ils regardent 2-3 fois, que ce soit tout ce que je vois en fait sur les réseaux, c'est tellement positif, enthousiaste. C'est sûr que c'est apaisant. Puis après une année de post-production quand même assez mouvementée, ça fait du bien.
Pourquoi elle est mouvementée et pourquoi c'est apaisant?
C'est apaisant parce qu'il y a eu énormément d'adversité pendant la post-production. Elle s'est étirée indûment. Puis moi, j'ai déménagé en même temps d'une plus grosse maison vers une plus petite. Quelques amis m'ont prêté main forte là-dedans, mais j'ai ressenti beaucoup de solitude. Je voulais pas monter la série seule, mais j'ai dû le faire. Stéphane Lafleur m'a prêté main forte vers la fin, mais j'aurais souhaité qu'il la monte au complet, sauf que son film Viking a été financé. Donc, hey. Je pense qu'il y avait autre chose à foutre que... ça a été juste beaucoup de responsabilités, beaucoup d'anxiété, mais c'est la passion puis la rigueur aussi pour que chaque détail soit méticuleusement choisi puis soigné. C'était énormément de pression, mais je pense qu'on a livré. Puis donc c'est pour ça que cette vague d'amour-là est apaisante, c'est que elle vient donner un peu raison à nos efforts puis à notre passion collective dans ce projet-là.
Oui, et j'aime beaucoup le fait que vous utilisiez le « nous » et le collectif, parce que bien sûr, bon, c'est une scénarisation signée Xavier Dolan, à partir, évidemment, librement inspirée de Michel-Marc Bouchard, la pièce éponyme, mais vous avez quand même, donc, scénarisé, réalisé, monté avec Stéphane Lafleur, vous jouez dedans. Et moi, je peux vous le dire, parce que j'ai vu tout ce que vous avez fait au cinéma... Pour moi, c'est votre chef-d'œuvre, mais dans le sens vraiment littéral du terme, capo lavoro, on dit en italien. Oui, ben ne vous cachez pas, parce que je vous vois avec la petite caméra.
Oui,
vous êtes caché. Voilà, parce que un chef-d'œuvre.
Ben non, mais c'est des gros mots, c'est des mots qui font peur, mais bon, qui font du bien, mais enfin, je sais pas si je l'ai.
Mais parce que le mot chef-d'œuvre veut dire quelque chose en langue française, ça veut dire que c'est dans l'œuvre de quelqu'un, l'œuvre maîtresse, l'œuvre qui parfois englobe toutes les autres et l'œuvre qui est supérieure à toutes les autres. Et moi, j'ai vu dans la série La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé, des clins d'œil à plein de vos films précédents et même à des clips. À un moment donné, Julie Le Breton est au volant de son auto Et elle regarde dans le miroir, elle regarde dans le rétroviseur. Confirmez-moi que c'est un petit clin d'œil à votre clip d'Adèle.
Mais, on peut le voir comme ça, c'est pas mal de le voir comme ça, mais non, j'y ai pas pensé. Il y a pas juste 10 000 façons de filmer quelqu'un dans une voiture avec un petit espace. Puis j'irais pas jusqu'à me faire à moi-même des propres clins d'œil, mais c'est ben vrai là. Qu'il y a énormément de retranchements avec des œuvres précédentes. Est-ce que c'est parce que des acteurs, des actrices reviennent? Est-ce que c'est parce que certains thèmes se recoupent? Mais en même temps, pour moi, c'était aussi l'opportunité d'aller complètement ailleurs, puis de faire quelque chose de nouveau avec un thriller, puis un monde visuellement qui est beaucoup plus sombre,
oui.
Une musique classique de bout en bout. Je comprends que oui, ça ressemble à des choses que j'ai pu faire, puis en même temps, je me dis que c'est aussi différent. Puis c'est ça l'idée, c'est de pouvoir travailler avec une Anne Dorval, mais que tout à coup, elle fasse une femme qui parle très bien, qui veut devenir mairesse, qui a des aspirations, qui est féministe, qui est... je dis pas que ses autres rôles étaient pas féministes, mais c'est une composition, c'est différent, on va ailleurs. Puis je pense que c'est ce qui a été plaisant pour moi avec ça, c'est d'aller vers un autre genre, un autre ton, un autre monde, même s'il y avait des alliés, des complices qui revenaient. Voilà.
Mais je disais pas du tout que vous vous répétiez ou qu'il y avait des échos, mais par exemple, si on prend la mère, mettons, dans « J'ai tué ma mère », la mère dans « Mommy », la mère dans « Juste la fin du monde » et Mado dans « La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé ouais. », il y a quand même quelque chose de très émouvant. C'est cette incapacité, parfois, puis je vais peut-être être émue, le rôle de mère est un rôle exigeant, un rôle complexe, un rôle difficile. Et l'incommunicabilité, l'impossibilité de dire à nos enfants qu'on les aime, cette relation-là avec les enfants, elle est commune quand même à ces quatre œuvres-là.
Oui, mais c'est de ça dont je parle depuis le début de ma vie, Sophie. C'est de le mot incommunicabilité est parfaitement choisi. Julien Breton aussi, c'est, je pense, qu'il a... Ce qui la touche le plus, elle, c'est plus au niveau de la fraternité que des relations maternelles, filiales. Mais oui, c'est notre incapacité à s'entendre. Celui qui parle le plus fort l'emporte. Puis on n'entend pas finalement la douleur des autres parce qu'ils sont mal engueulés, puis ça sort n'importe comment, puis on est nerveux, puis on ne sait plus comment communiquer, on ne sait plus comment se parler. Et même quand on essaie, ben ça sort tout croche. Puis ça, je pense que c'est au cœur de ce que je fais depuis le début. C'est sûr que, mais j'avais pas, en passant, n'ayez aucune inquiétude, là, je pensais pas que vous, j'ai pas entendu que je me répétais, je faisais juste le préciser, mais c'est vrai que ça, l'incommunicabilité, ben, je pense que c'est au centre de tout ce que je fais, que j'en sois conscient ou non, c'est tout le temps là, parce que c'est ce qui me touche le plus.
Mm-hmm.
C'est pas les gens qui ont tort ou qui ont raison, c'est les zones de gris entre les deux, puis rien n'est noir, rien n'est blanc, à aller chercher les nuances dans, comme par exemple le personnage de Patrick Yvon dans la série, est un personnage qui est vraiment quand même assez terrible. Mais en même temps, on explore sa douleur, puis lui aussi, le fait que il y a un moment dans la série, puis je veux pas divulgâcher.
Non, il faut pas.
C'est tellement niaiseux ce mot-là. Mais je veux pas divulgâcher, mais à un moment donné, il dit à sa sœur qu'il a pris une décision, ils ont pris une décision tous les deux, bon, qui a eu des conséquences assez lourdes. Et puis, on apprend ce que c'est vers la toute fin de la série. Mais il lui dit à un moment donné, t'avais le choix. Puis elle dit, tu penses que j'avais le choix? Il dit, ben oui, t'avais le choix. On a tous le choix. Puis, c'est très rationnel, comme il dit. Puis c'est vrai que fondamentalement, ben, on a tous le libre arbitre on a le choix. Mais elle, c'est pas un choix qu'elle a eu parce qu'elle a pris cette décision-là pour protéger son frère par amour. Et comme lui, c'est quelqu'un qui se déteste profondément et qui ne s'aime pas, il peut pas comprendre c'est quoi faire un choix comme ça, je pense en tout cas. Donc, c'est ça qui me touche, c'est oui, on a un personnage qui se révèle assez complexe et assez, même monstrueux par moments, violent, mais il y a là-dessous des sous-couches, tu sais, quand on creuse, on voit toute la douleur, tu sais, qui est derrière le fait de ne pas pouvoir communiquer, de ne pas pouvoir se raconter, puis dire qui l'on est, puis dire à qui on veut, qu'on les aime, en fait.
En fait, je pense que c'est dans cette série-là qu'il y a la première fois que je vois des personnages dolaniens ou dolanesques dire autant je t'aime.
Ouais, c'est possible. J'y ai pas pensé, mais c'est possible. Vous savez, c'est ça qui est intéressant, c'est que maintenant, c'est la série, elle appartient à tout le monde. Puis souvent, on a tellement la tête dedans puis le nez dedans que c'est seulement une fois que on l'envoie comme ça, on la lâche dans le monde, que les gens nous apprennent un petit peu, nous disent « Ah, on a remarqué ça », puis on est comme « Oh shit, c'est vrai, c'est... » Donc, j'ai pas remarqué, mais c'est vrai en tout cas que il y a beaucoup de, je pense que il y a, en fait c'est drôle parce que je pense qu'il y a énormément de tendresse, mais je pense aussi que c'est ce que j'ai fait où il y a le plus de violence aussi, verbale et physique.
Oui.
Mais c'est vrai que oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de bienveillance de la part de certains personnages en tout cas.
Oui, alors on va pas faire de divulgateur, pas de spoiler alert. En effet, il y a une chose qui est absolument formidable, c'est votre utilisation de la musique. Moi, j'aimerais ça être un petit oiseau et avoir accès à votre compte Spotify pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans vos listes d'écoute, parce qu'il y a du Jean Ferrat mélangé avec du Monique Lhérac, mélangé avec du Céline Dion, mélangé avec du Adele et plein de chanteurs comme ça.
Du Coldplay.
Du Coldplay, oui, tout à fait, puis du Jean Leloup, puis toutes sortes de choses. Et tout ça fait sens à l'intérieur de la série. Je veux juste qu'on écoute un petit extrait. Je vais demander à mon ami Charlie de nous faire jouer La Montagne de Jean Ferrat.
Que la montagne est belle. Comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle?
Ok, ça, Xavier, là, c'est ringard, c'est vieillot. Je pense que même en France, il n'y a plus personne qui écoute La Montagne de Jean Ferrat. Il doit y avoir à peu près une personne à travers la planète. C'est moi. J'écoute, je connais par cœur les chansons de Jean Ferrat. Quand j'ai vu cette chanson-là, c'est chanté par Anne Dorval dans la série, je me suis dit où il est allé chercher ça?
Ben, j'ai grandi avec moi. On écoutait ça à la maison. Ma mère écoutait ça, puis. Je pense que mon grand-père, qui chantait très, très bien, qui avait une très belle voix, je pense qu'il chantait des chansons de Jean Ferrat. Il y a toujours eu des chanteurs dans la famille de pas moi, là, mais dans la famille de ma mère et de ben, mon père, évidemment. Ben,
Manuel Tadros, évidemment, oui.
Oui, pardon. Et puis, donc, j'ai grandi avec ça, Jean Ferrat, puis c'est ça, je trouvais ça. La chanson est chantée, effectivement, par Anne Dorval, a cappella, puis même la façon dont elle le chante en voix de tête comme ça, c'est un peu, il y a une ringardise là-dedans aussi, puis
oui,
une espèce de côté très classique, très conservateur dans la façon de chanter, comme un peu ça me rappelle comme ma grande-tante Jeannine, qui a une très belle voix, mais chante vraiment très, très en voix de tête, puis c'est un peu, comment dire, c'est très beau, mais c'est un peu roucoulant, tu sais. Puis, mais je trouvais que c'était une belle, je trouvais que c'était de sa génération, c'était de son temps pour, dans la série, je veux dire, le personnage d'Anne. Et puis, voilà, mais c'est ça qui, je pense, l'idée, c'est qu'on passe de Jean Ferrat à, après, oui, Coldplay ou une toune de hip-hop de mon secondaire. Je pense que dans mon Spotify, ce que vous trouveriez, c'est beaucoup de diversité, puis beaucoup de variété, puis de ça passe du punk à la musique classique. J'ai pas de, on dirait que mes standards en termes de musique sont quand même assez assez vagues, assez vastes. J'aime de tout.
Oui. Et ben il y a évidemment du Céline, parce que on peut pas imaginer Xavier Dolan sans Céline. Et c'est une scène où Magali Lépine-Blondeau fait une espèce de karaoké complètement déjoncté. J'ai jamais vu Magali Lépine-Blondeau aussi sexy. Oserais-je même dire un peu cochonne. On va écouter l'extrait de Céline. Oui, cochonne, hein. Oui, complètement cochonne. Assumé cochonne.
Ouais.
On va écouter ça. Vous avez dû avoir un plaisir fou, en plus, quand vous avez dit à Magali, en « Ouais, déhanche-toi », puis avec sa petite couette blonde relevée, là, ça devait être un moment de tournage.
Oui, une espèce de grande couette à la Ariana Grande, une robe léopard très, 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 très moulante.
Cochonne!
Je pense qu'elle a eu beaucoup de... Cochonne! Bon, elle a eu beaucoup de plaisir, je pense, à faire ça. Puis, il y a un sens aussi. J'aurais pu me retenir, on s'entend. C'est que l'affaire avec Céline, c'est que c'est pas juste moi, c'est... Elle représente quelque chose aussi pour les Québécois, les Québécoises. Puis, je trouve ça le fun aussi, tu sais, de rester dans la francophonie. C'est pas toujours facile, par exemple, surtout pour une série. Je me suis vraiment cogné à un mur souvent par rapport à la libération de droit. Là, je le dis comme
ça.
Ah
oui?
Des chansons québécoises, oui. Alors, de deux choses l'une, contrairement à d'autres pays, d'autres les chansons au Québec, en tout cas d'autres endroits dans le monde, les chansons au Québec sont calculées en termes de tarifs par tranche de 30 secondes, ce qui les rend très 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 chères, parce que ben ça dure jamais 30 secondes, ça dure 2-3 minutes, donc on se retrouve à en tout cas à toujours devoir multiplier le tarif à l'origine. Puis Il y a beaucoup de chansons québécoises, c'est ce que j'ai constaté que je voulais utiliser, d'Isabelle Boulay, de Bruno Pelletier, qui sont en fait des chansons dont les droits ont été cédés, parce qu'à cette époque-là, je pense que peut-être que les artistes étaient au début de leur carrière, puis ils voulaient céder leurs droits à leur label, et donc le label avait 100% des droits, et ces labels-là ont fait, en fait, faillite, ou ont cédé leur catalogue à des plus gros joueurs. Il y a un de ces joueurs-là, que je nommerai pas, qui répond jamais à son téléphone, qui charge une fortune, et qui, je trouve, nous empêche qui charge une fortune, qui est un crosseur, et qui nous empêche de pouvoir, en fait, qui empêche le public québécois d'entendre les chansons de nos artistes à la télévision ou au cinéma, et qui empêche ces artistes-là aussi de
Bien
pouvoir,
sûr.
À travers la pérennité, puis s'insérer dans les œuvres, dans la durée,
dans le patrimoine.
Dans le patrimoine, exactement.
Oui. Ben, j'en reviens pas.
Ça a été assez pénible. Mais Céline, ben, on pourrait en parler plus en détail, mais c'est très technique, mais ça a été, il y a une dizaine de chansons québécoises auxquelles j'ai dû renoncer, soit parce que j'avais pas de réponse de ce même label-là, ou soit parce que ça coûtait tout simplement trop cher à cause de la façon dont on calcule les tarifs, qui vont faire en sorte qu'une chanson de Ginette Renaud va me coûter le même prix qu'une chanson de Coldplay.
Ça n'a aucun sens.
Je suis
complètement, complètement scandalisée. On va continuer sur la musique juste quelques secondes. C'est pas relié à Laurier Gaudreau, mais vu que je suis là pour vous lancer des fleurs, il y a une musique que je ne peux plus entendre à cause de vous, grâce à vous, sans me mettre à pleurer. Et c'est parce que c'est une scène vraiment clé de Mommy. Et à un moment donné, je suis allée assister à un concert de La Pietà, Angèle Dubois et La Pietà, et elle a joué un extrait de cette pièce-là, et je sanglotais dans la salle. On en écoute un petit extrait. Ludovico Einaudi, cette scène-là dans Mommy, Xavier, mon cœur de mère, s'est arrêté de battre. C'est fou, c'est quelques notes de musique, puis ça me fait revivre cette scène-là dans votre film. C'est un pouvoir extraordinaire, le cinéma, les images.
Mais le pouvoir de la musique combiné au pouvoir de l'image aussi, c'est cette relation-là, c'est cette dynamique-là qui est si forte que moi j'admire tant chez les autres cinéastes, les autres réalisateurs, réalisatrices. Il y a une scène, un montage séquence semblable dans Laurier quand même, un montage sur les conséquences, le temps qui passe,
le flashback dans le corridor d'hôpital.
Ouais.
Mais c'est une pièce d'anthologie, ça.
Ça évoque, je pense, Mommy. J'en étais conscient en le faisant, mais c'est l'inverse. Mommy, c'est un fantasme, c'est un flash forward, c'est le fantasme de ce que la vie pourrait être. Et là, c'est la remémoration de ce qui s'est passé, puis la révélation, en fait, de la vérité, puis de cette fameuse décision-là qui a été prise, de ce choix-là qui a été fait, de ce mensonge-là qui a été dit et qui a été si lourd de conséquences et si destructeur pour tant de personnes dans la série.
Avec un petit clin d'œil à Lady Di, en plus, en passant, ça se prend toujours bien.
Mais oui.
Ce sont
les grandes actualités de la fin du siècle. On n'a pas le choix. Elles sont incontournables. La Coupe Stanley, Lady Di, le bloc, on n'a pas le choix de passer par là, les tours jumelles.
C'est des moments marquants. Non, je vous dis ça parce que j'avais fait une entrée Facebook où je vous disais merci, merci pour ci, merci pour ça, merci pour le vernis à ongles rouge sur les doigts d'Anne Dorval, etc. Et j'ai mis merci pour le flashback dans le corridor d'hôpital. Et là, il y a plein de gens qui sont venus sur ma page Facebook qui avaient adoré Laurier Gaudreau et qui disaient oui, le flashback dans le corridor d'hôpital. Il y a vraiment une adhésion. Les gens ont beaucoup, vraiment beaucoup aimé la série. On a beaucoup parlé au cours des derniers mois en tout cas en 2022, c'est beaucoup revenu dans les conversations, la désaffection des jeunes Québécois pour la culture québécoise. On a beaucoup fait état d'un incident qui a eu lieu à ATM, là, à l'école des médias à Jonquière, où des jeunes supposément savaient pas qui était Véronique Cloutier. Puis ça a créé toute une discussion sur comment on fait en sorte pour que les jeunes Québécois embrasse la culture québécoise, pour qu'ils sachent qui est Monique Lérac, pour qu'ils sachent qui était Jean Lapointe. Est-ce que vous, ça vous fait de la peine si je vous disais, par exemple, qu'il y a des jeunes de 20 ans qui peut-être savent pas qui est Xavier Dolan ou qui peut-être connaissent pas les référents que vous avez dans vos films ou dans vos séries? Est-ce que ça vous fait de la peine?
Ben oui, ça me fait de la peine. Pas de façon égocentrée par rapport à moi, mais par rapport à notre culture en général puis notre identité. Il y a quelque chose qui se perd. C'est pas pour moi de l'évolution ou une transformation parce que toutes les cultures changent puis évoluent. Là, pour moi, c'est vraiment une espèce de méconnaissance, une inculture totale de notre identité québécoise, celle qui les a mis au monde, ces enfants-là. Et en même temps, il y a quelque chose aussi qui s'explique facilement là-dedans dans le fait que je sais pas à quel point eux peuvent se retrouver dans les standards qu'on leur offre en termes de divertissement. Est-ce que on peut rivaliser avec les Netflix, avec les Amazon Prime, avec les standards qu'établissent ces grands joueurs-là, ces grands streamers-là? Eux regardent ces séries-là tournées à coups de millions et millions et millions de dollars. Nous, on n'a pas cet argent-là ici au Québec. Cet argent-là, il se trouve, il se crée. Parce que si on réussit pas à être fédérateur puis à aller chercher ces jeunes-là, en leur offrant un contenu qui, oui, est en québécois, oui, se passe ici, mais leur offre des standards où c'est pas tout le temps tourné, pas de cash, pas d'argent, en deux secondes, pas de décor, pas de costume, pas rien. On n'arrive pas à rivaliser avec la culture qu'eux connaissent et qui leur est accessible, qui est celle qu'ils ont au bout des doigts sur leur téléphone.
Je comprends.
Puis, je pense que c'est pour ça que je suis si reconnaissant à Club Illico, en fait, d'avoir eu l'audace d'aller vers ce budget-là, de nous donner le temps, de prendre le temps, de faire les choses, de bien se raconter. Parce que c'est une œuvre qui est très québécoise, Laurier Gaudreau. Moi, je n'ai jamais quitté le Québec. Je suis toujours resté ici. J'ai toujours fait des films sur nous. Quelle que soit la classe sociale, la génération, le genre, je suis toujours resté ici. Bon, à une exception.
Oui.
Mais même quand j'ai tourné
Donovan,
un film américain,
hein?
je l'ai
je
tourné à Laval.
Oui.
Oui, mais je l'ai tourné à Laval ou je l'ai tourné à Sainte-Dorothée ou je l'ai tourné à... Je suis toujours resté québécois. Puis c'est parce que je crois aux Québécois, je crois à notre identité puis à notre culture. Puis en même temps, ben, il faut savoir les attirer, ces Québécois-là, ces Québécoises-là. Puis le monde est en train de s'ouvrir. Les frontières sont en train de se pas de disparaître, mais de se...
Comment dire? Flouter? Devenir plus flou?
Flouter un peu, oui.
Ouais.
En ce sens où les gens coproduisent, collaborent, il y a des partenariats entre France 2, Radio-Canada ou TVA et Canal. Et il faut aller vers ça. Il faut aller vers ces shows-là, en fait, qui nous permettent d'aller chercher ces générations-là qui, elles, sont habituées à des standards, je pense, visuels, des standards narratifs qui sont différents un peu de ceux qu'on leur... de ceux qu'on leur propose. Il y a énormément de talent au Québec, tant du côté du jeu que de la réalisation. On sent des artistes qui sont inspirés, qui sont à l'affût, qui connaissent les The Crown, qui connaissent les HBO, Succession, tout ça. Leur public ici, d'une génération, disons, peut-être pas les plus jeunes, connaissent pas forcément ces références-là, mais ça veut pas dire qu'ils peuvent pas apprécier une télé plus standardisée, une télé plus luxueuse, une télé plus ambitieuse. Et eux, ils sont capables de maîtriser ces codes-là. Mais il faut qu'on leur donne l'argent pour le faire. Et c'est pour ça que je salue l'initiative d'Illico, parce que...
C'était quoi le budget?
Ils ont eu ce courage-là.
C'était quoi le budget?
Je ne sais pas exactement et précisément
Xavier.
Combien.
Entre nous, là, il y a juste
je
vous
sais
et
pas
moi.
Pour vrai.
Non,
je
vous
sais
le savez pas.
Pas.
Mais Nancy, elle le sait.
Je sais pas pour vrai. Mais je sais que l'investissement...
est majeur.
Appelez Illico, ils vont vous le dire.
Attendez, je sors mon téléphone.
Je sais que c'est un investissement inédit de la part de Club Illico. Puis,
et le résultat en vaut la peine.
Je trouve qu'on devrait se donner les moyens que ça se reproduise et que tous les gros joueurs devraient songer à... Et ça arrive de plus en plus, les gens donnent de plus en plus de budget, ils ont des séries dites de plus en plus lourdes, mais Pour moi, ça a été une expérience exceptionnelle parce que j'ai pu avoir le temps puis l'argent de créer ce monde-là, cet univers-là. Puis c'est pour ça que je suis aussi heureux et apaisé que ben c'est pas été pour rien puis que ce soit pas en vain, que ce soit pas un coup d'épée dans l'eau, que les Québécois soient au rendez-vous et qu'ils accrochent, qu'ils aiment, qu'ils remarquent, qu'ils notent les détails. Ça fait ultra plaisir.
Ah, les détails. T'sais. Alors, on va se terminer sur un détail et comprendront ceux qui ont vu la série et ceux qui l'ont pas encore vu. Vous allez le voir dans la série. Je vais vous le mimer, le doigt qui craque et la cuisse de la dinde. Ce détail-là, vraiment, ça m'a tué. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Xavier Dolan.
Merci à vous.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Sophie Durocher.
Aussi agile qu'une ballerine, elle danse avec l'information.
C'est tout en anglais.
Sophie Durocher.
C'est toi qui as tiré la sonnette d'alarme.
Le Québécois moyen était...
Guy Nantel.
Quelqu'un qui subissait et qui se disait « Je ferme ma gueule, ben, je ne veux pas perdre ma job. »
La rencontre.
Cet asservissement, cette servitude volontaire.
C'est quelqu'un qui va dire, par exemple, « Moi, je suis allé à l'urgence, là, j'ai attendu 6 heures, OK? »
La rencontre, Nantel, Durocher.
Le jeudi 15 décembre de 17h30 à 22h à l'église Saint-Viateur d'Outremont, tous les gens qui ont apprécié et adoré Jean Lapointe pourront lui faire un dernier adieu. Ce sera une chapelle ardente, mais il n'y aura pas de funérailles nationales. Et ça te fait réagir, Guy Nantel?
Écoute, c'est une question qui me fait penser un peu quand on parle des retraits des chandails des grands joueurs du Canadien. Il y a toujours le fameux débat, pourquoi lui, pourquoi pas l'autre, c'est compliqué. Souviens-toi, dans le cas de Gilles Latulippe, il y a quelques années, on avait eu exactement le même débat social, finalement, qui n'avait pas eu non plus de funérailles nationales. Juste d'entrée de jeu, j'expliquerai peut-être la distinction entre les trois types de funérailles qu'on fait normalement aux grands de ce monde. Il y a les funérailles civiques. Ça, c'est pas le gouvernement qui les organise, mais des fois, ils peuvent venir en aide. Ça, c'est les municipalités, souvent, qui vont choisir bon, ça va être le décès d'un maire, par exemple, ou quelqu'un qui exerce une fonction comme un policier ou un pompier. Ça, c'est les funérailles civiques. Funérailles d'État, ça, c'est réservé normalement. C'est ce qu'il y a de plus formel, là. Ça, c'est les anciens premiers ministres. Funérailles d'État. Et depuis 1996, au Québec, on a décidé de faire des funérailles nationales ou des cérémonies nationales qui sont en fait l'équivalent, mais c'est pour moi qui est pas religieux finalement. Et bon, ça, c'est à peu près la même chose que les funérailles d'État, mais un peu moins formel. Mais quand même, le drapeau est mis en berne, le public peut rendre hommage et tout ça aux frais de l'État. Et ça, c'est réservé normalement aux personnalités qui n'ont pas été des premiers ministres, mais qui ont marqué soit la vie politique, la vie artistique ou la vie sociale. Mais c'est le cas de Jean Lapointe dans les trois domaines.
Voilà.
Ce serait le premier qui, à la fois, était un grand artiste sur scène, dans la chanson, on en a parlé l'autre jour, au cinéma, mais aussi un humaniste qui a sauvé des vies puis qui a consacré sa vie, évidemment, à la maison Jean Lapointe, et un ancien sénateur. Puis c'est la raison pour laquelle je pense qu'on devrait y penser à deux fois, mais là, visiblement, il n'y en aura pas, mais je pense qu'il se qualifie pour ça, oui.
Ouais. Puis moi, c'est difficile quand on parle de ça, parce qu'il y a évidemment les critères objectifs que tu viens de nommer, puis il y a les critères subjectifs. Moi, je pense qu'un critère subjectif qui devrait être au premier rang quand on décide s'il y a des funérailles ou quel type de funérailles il y a, c'est l'affection que les gens portaient. Je pense évidemment à quelqu'un comme René Angélil. ça a coûté cher, les funérailles de René Angélil. C'est quelqu'un qui a été extrêmement important, évidemment, pour la carrière de Céline. Bon, évidemment, tu peux dire aussi pour la carrière de Ginette Reno, mais est-ce que vraiment les Québécois, dans leur cœur, je dis ça en tout respect pour Monsieur Angélil, c'est pas la même affection qu'on portait à un René Angélil qu'on porte par exemple à un Guy Lafleur, tu comprends? C'est difficile à quantifier, puis c'est difficile à mettre en mots, mais on le sait quand il y a quelqu'un où tu sais le cœur des Québécois se brise quand on apprend le départ de quelqu'un. Ben je pense que dans ce cas-là, Jean Lapointe, notre cœur était vraiment brisé.
Ben, écoute, pour l'exemple que tu donnes, je suis pas d'accord avec toi parce que je pense que René Angélil avait le même taux d'estime, sinon plus, auprès des Québécois.
Ah ouais, ok.
Mais, d'après moi, là, mais en tout cas, ça, c'est discutable comme tout, de toute façon.
Ben voilà, c'est pour ça que je disais que c'était subjectif.
Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le choix des funérailles nationales, ça relève strictement du choix du premier ministre. C'est vraiment lui qui décide tout seul. Il n'y a aucun critère objectif par rapport à ça. Il n'y a rien qui est défini dans l'État. C'est le premier ministre qui décide. Évidemment, de manière non écrite, on s'entend pour dire qu'il faut avoir une certaine notoriété, comme tu dis, une appréciation de la part du public, puis une forme de contribution, si on veut, au rayonnement du Québec. Depuis 1959, au début, ça a surtout été des premiers ministres. Donc, il y en a eu 10 en tout, des anciens premiers ministres qui ont eu des funérailles d'État. Et depuis 1996, il y a eu 19 fois des funérailles nationales. Sauf que, là où je te rejoins, c'est qu'il y a effectivement beaucoup de monde là-dedans qui était soit moins connu ou moins élevé au niveau de l'affection du public. Tu sais, puis c'est pas, comprends-moi bien, là, je sais pas qu'ils méritent pas de funérailles nationales et qui n'ont pas contribué à la société, mais quand même, tu sais, Louis Laberge, le syndicaliste,
ben oui.
Claude Béchard, l'ancien ministre. Qui était bon ben que ça c'est en 2010 qui est décédé, Denis Blanchette qui travaillait pour lorsqu'il y a eu l'attentat contre
Pauline Marois. Oui, tout à fait.
Le cinéaste Michel Brault, Fernand Leduc, le peintre, ou même Marc-André Bédard, cette année, en 2022, qui a reçu les funérailles nationales aussi, qui est un grand ministre de l'époque de René Lévesque, mais en même temps, il y avait plein de ministres vedettes de l'époque de René Lévesque, et il y en a qui ont été un petit peu, qui n'ont pas eu de funérailles nationales. Donc, ce que j'essaie de dire là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup de gens là-dedans qui sont moins connus, ou que le public avait moins cette affection directe qui ont eu pour Jean Lapointe.
Ben c'est ça. C'est des critères subjectifs, parfois mystérieux. Il faut quand même souligner que même le ministre de la Culture, le nouveau ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, dit qu'il comprend pas trop pourquoi et qu'il a demandé à ce qu'on vérifie tout ça, que lui-même ne comprend pas très bien pourquoi les critères ne s'appliquaient pas dans le cas de Jean Lapointe. Je veux juste revenir sur ce que tu disais tout à l'heure. C'est donc depuis 1996, donc cette notion-là de funérailles nationales. Et le premier qui en avait, entre guillemets, bénéficié, enfin le premier pour lequel on l'avait fait en 1996, c'était Gaston Miron. Et tu vois, c'était pas il y a si longtemps que ça, c'était quand même il y a 28 ans de ça. Et je fais juste réfléchir à voix haute, là. Mais je suis sûre que si je me pointe ici, là, près de l'UQAM, mettons au coin de Sainte-Catherine et Berry, je prends cette adresse-là au hasard, et que je demandais à des jeunes Québécois, est-ce que combien saurait qui était Gaston Miron? C'est fou comme en moins d'une génération, on peut oublier des gens qui ont été si importants pour le Québec.
Ah ben, écoute, t'as tout à fait raison, mais tu sais, bon, on peut dire la même chose de Riopelle, même de Gilles Carle, est mort plus récemment. Ça, c'est évident qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés à l'oubli. Il y a aussi des grands qui n'ont pas été soulignés. Je tiens à dire une chose, quand même, une forme d'iniquité, même si on comprend que dans l'histoire, les hommes étaient plus mis en valeur jadis, mais il y a quand même, en dehors de la sphère politique, 12 hommes qui ont reçu des funérailles nationales et 0 femmes en dehors de la sphère politique. Alors, c'est jamais arrivé qu'une femme reçoive des funérailles nationales, sauf quand c'est une ancienne politicienne, par exemple Lise Payette en 2018 l'avait été.
Ouais. Je veux pas évidemment évoquer, parce que ça risque d'être dangereux, de grands noms de femmes qu'on aime et qu'on adore et qu'on connaît uniquement par leur petit prénom. Donc, j'irai pas là, mais je pense que si, en effet, certaines personnes auxquelles on est tous capables de penser spontanément, de gens qu'on connaît uniquement par leur prénom. Je pense que si ces femmes-là qui ont bâti le Québec moderne venaient à mourir au cours des prochains mois, je pense que c'est évident qu'elles auraient le droit à des funérailles nationales. Mais en effet, t'as tout, t'as fait raison, mutatis mutandis, c'est-à-dire que toute chose étant égale, il y a quand même eu, au cours des 100 dernières années, plus de... c'est plate à dire, mais il y a eu plus de personnages importants masculins que féminins. La prochaine génération, les 100 prochaines années, ça risque d'être complètement différent, mais quand on regarde les 100 dernières années, qu'est-ce que je te dis, c'est ça qui est ça. Merci beaucoup, Guy. Penses-tu que toi, quand tu vas mourir dans 90 ans, penses-tu que tu vas avoir droit à des funérailles nationales? Oh, malheureusement, c'est tout le temps qu'on a, mon Guy.
J'allais répondre oui, mais on va se laisser là-dessus. Bon, écoute, chaud lundi et mardi, on se reparle juste mercredi dans mon cas. Ceci, je m'en vais jouer dans le grand nord du Québec.
Bravo, bonne chance. Merci.
Merci, au revoir.
Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5 000 $ pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
Sophie Durocher.
Passionnée. Cultivée. Rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher.
Le député et porte-parole du PQ en matière de culture, Pascal Bérubé, a une demande bien spéciale pour le ministère de la Culture. Il voudrait qu'on récompense l'auteur Victor Lévy-Beaulieu qui a dû refuser un prix littéraire français très, 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 très prestigieux uniquement parce qu'il n'était pas capable de se rendre sur place en France pour aller chercher ce prix-là. Pascal Bérubé est au bout de la ligne. Bonjour, Monsieur Bérubé.
Bonjour, Mme Durocher.
Une petite question un peu baveuse. Pourquoi ce serait au Québec de récompenser financièrement Victor Lévy-Beaulieu pour un prix qu'il n'a pas pu aller chercher en France? Est-ce que ce n'est pas aux Français de réviser leurs critères pour remettre des prix?
Très juste, mais cet honneur, il lui était décerné. On a choisi de ne pas lui remettre ni la distinction, ni la bourse parce qu'il est malade, vous l'avez précisé. Alors, le Québec, en clin d'œil, pourrait compenser et reconnaître de façon bien plus concrète cet apport inestimable de cet auteur important pour le Québec. J'ai téléphoné à Victor Lévy-Beaulieu, que je connais un peu. Il habite dans ma région, à Trois-Pistoles. Et je veux préciser que jamais il n'aurait demandé ça pour lui.
Je comprends.
C'est ma décision. C'est ma décision de lui dire, je pense que le gouvernement du Québec devrait compenser... souligner à grands traits ce prix, c'est le premier Québécois à le recevoir, chez lui à Trois-Pistoles, avec une bourse équivalente, un peu plus de, je crois que c'est un peu plus de 10 000 euros. Donc, c'est le genre de geste de courtoisie, d'élégance qu'on peut faire. Parfois, il faut être un peu frondeur. Alors, je dis ça et je dis rien, comme on dit, peut-être inspiré de la dernière semaine, mais il faut faire les choses différemment. Et si, d'aventure, le ministère de la Culture a envie de suivre ma suggestion, ben libre à lui. Ben, c'est pas la première suggestion que je lui fais. Le 21 novembre dernier, pour Jean Lapointe, je lui demandais d'évaluer la possibilité de tenir des funérailles nationales. On a appris quelques temps après que finalement, ça ne sera pas le cas. Donc, ça m'est arrivé souvent en matière de culture que je vais faire des propositions.
Oui. En même temps, on aime ça quand les partis d'opposition, même s'ils ne siègent pas à l'Assemblée nationale, qu'ils soient la mouche du coche, c'est-à-dire que ce soit un petit peu des empêcheurs de tourner en rond, qui viennent rappeler qu'il y a un certain nombre de choses qui ne se font pas ou qui devraient se faire. Mais je reviens à l'affaire de Victor Lévy-Beaulieu. Personne ne nie l'importance littéraire de Victor Lévy-Beaulieu, l'importance littéraire, l'importance aussi de son écriture pour la télévision, l'héritage Bouscotte et compagnie. Mais je repose la question. Les Français ont décidé de lui donner un prix grand bien leur face. Un critère pour ce prix-là, c'est tout simplement de pouvoir passer 3 jours en France pour pouvoir dialoguer avec les auteurs, parce que sinon, le prix n'a pas de sens. C'est pas juste un prix pour vous êtes ben bon, vous écrivez des ben bons livres. Là. C'est venez ici, venez chez nous, rencontrer les lecteurs, rencontrer le public. Si on peut pas rencontrer le public, on vous remet pas le prix. C'est-à-dire que moi, personnellement, M. Bérubé, je vous suis dans un certain nombre de vos combats. Quand vous combattez l'injustice dans ce cas-ci, je ne suis pas sûre qu'il y ait une injustice qui a été commise à l'égard de Victor Lévy-Beaulieu.
Je crois que oui. Je crois qu'il y en a une parce qu'il a offert échanger avec les personnes présentes par visioconférence. C'est pas un caprice, hein. Il est vraiment malade. J'en ai discuté avec lui de façon privée. Je trouve une injustice parce qu'à travers le fait qu'il ne reçoit pas ce prix, c'est un rayonnement de la littérature québécoise qui est occulté. C'est le Salon du livre récemment. Victor Lévy-Beaulieu écrit les livres depuis 1969. Il a souvent été mal aimé, il faut le dire.
Oui.
Il a souvent été snobé, méprisé, notamment pour ses œuvres dans les téléromans. J'en ai discuté abondamment avec lui. Et encore une fois, la marque des grands, Victor Lévy-Beaulieu n'est pas un homme riche. Mais quelqu'un de très généreux qui a, en 2018, offert dans sa municipalité 3 pistoles, 10 000 $ pour le caveau 3 pistoles. C'est pas lui qui a fait la publicité de ça. Il n'a pas voulu que ça se sache. D'autres en ont parlé. Alors, moi, je suis sensible à ça. Et je pense que le ministère de la Culture, libre à lui, libre au ministre d'aller de l'avant ou pas, je pense qu'on pourrait, faire ça. C'est une belle façon de souligner son travail. Mais évidemment, c'est une suggestion, c'est une proposition. Il y a bien des auteurs qui trouvent ça intéressant. Il y aura peut-être une autre occasion, il pourra intervenir avec les habitués de la littérature française. Il ne demande pas autre chose que de pouvoir s'exprimer avec eux. Je pense que ça lui ferait bien plaisir. En tout cas, il a pris beaucoup de plaisir à s'exprimer avec moi. Je peux vous le dire. Il y a beaucoup de choses intéressantes à dire. Vous avez l'occasion de l'avoir éventuellement en entrevue.
Avec plaisir.
C'est un personnage emblématique du Bas-Saint-Laurent. Moi, qui a vu à peu près tout, disons, ses téléromans depuis l'Héritage. Il y a toujours des dérubés dans ses téléromans. Beaucoup de personnages de toute la toponymie du Bas-Saint-Laurent. Pour moi, c'est quelqu'un d'important au Québec. Et il faut le dire aux gens quand ils sont vivants. C'est
oui.
Très important.
Oui.
Alors, moi, j'ai un gars tout le temps. Tout le monde devient plus grand que nature une fois décédé. Je veux bien. Mais honorons les gens de leur vivant autant que possible.
Oui. En même temps, il a été fait compagnon de l'Ordre des Arts et des Lettres du Québec en 2018. Il a reçu le prix Gilles Corbeil en 2011, le prix Athanase David en 2001. C'est pas faute d'avoir reçu des médailles ou reçu d'avoir des récompenses. Mais bon, on n'est pas obligé d'être d'accord, Monsieur Bérubé. Ça peut arriver.
Oui, mais vous avez raison. Je comprends très bien votre argumentaire. Mais disons-le aussi. C'est un emmerdeur. Je pense qu'il le sait. Il a eu des coups de gueule mémorables que je connais à peu près tous. Mais il y a un prix à payer pour ça et il le paie depuis des années. Vous savez, quand on décide de s'assumer pleinement, il y a un coût à payer. Puis moi, j'ai du respect pour cet homme debout qui a un grand talent littéraire, qui nous a éblouis à travers au théâtre, dans la littérature, avec ses téléromans, mais qui a encore beaucoup à donner. Moi, j'ai ses derniers romans. Donc, ben voilà pour Victor Lévy-Beaulieu, mais défendre la littérature, c'est défendre ses auteurs aussi.
Oui.
Alors, c'est ce que j'ai voulu faire tout simplement à travers cette suggestion.
Je comprends. Alors, quand vous dites qu'il est un emmerdeur, c'est dit évidemment avec beaucoup d'affection et beaucoup de tendresse, évidemment, oui. Venant de vous. Parlant d'emmerdeur, vous et les deux autres sombreros, les tres sombreros, les tres amigos, vous êtes un petit peu des emmerdeurs en ce moment à l'Assemblée nationale.
Non, il y a 125 députés à l'Assemblée nationale. Il y en a 122 qui sont assis. Il y en a 3 qui sont debout.
Oh! Attendez, là. On connaît vos talents oratoires, mais ça, j'avoue que résumé comme ça, c'est bien résumé. Vous faites évidemment référence à ce fameux serment au roi. Cette image qu'on a vue, qui a été publiée à la une du journal de Montréal, Journal de Québec, où on voit, on voit Joël Arsenault et on voit Paul Saint-Pierre Plamondon bloqué à l'entrée de l'Assemblée nationale. Pour moi, ça va être l'image, une des images emblématiques de 2022. Il y a ma collègue José Legault qui dit merci aux 3 mousquetaires péquistes. Comment ça va se terminer, tout ça?
Bien, je l'espère, parce que n'eût été de notre acharnement basé sur nos convictions. C'est pas du théâtre, là. J'ai lu ça. Les gens, c'est du théâtre. Non. Moi, ça m'habite très fortement depuis longtemps. C'est pas la première fois que j'interviens là-dessus depuis 15 ans. On souhaite que ça se termine positivement et ça sera le cas parce que le projet de loi sera vraisemblablement présenté mardi. Donc, on a le temps de l'adopter. N'eût été de l'acharnement et de la visibilité médiatique qui est attachée, jamais le gouvernement du Québec d'abord aurait fait le choix de déposer un projet de loi avant la fin de la session parlementaire. Jamais Québec solidaire, malgré qu'ils se sont désolidarisés, ont décidé de revenir avec un geste que j'apprécie, que je souligne. et le Parti libéral, il faut le dire, qui décide de se joindre à la danse et de contribuer à accepter, à voter pour ce projet de loi avant la fin de la session. Alors, bien sûr, on est à l'extérieur, mais on a tout fait ça à trois de l'extérieur.
C'est fou.
Alors, pour les autres dossiers à venir, la même détermination sera là. Et je le réitère encore une fois, c'est un problème de liberté de conscience à plusieurs égards. Un roi étranger, chef de l'Église anglicane, je suis un député catholique. Pourquoi je prêterais serment au chef, même si certains disent symbolique, d'une autre religion? Si la laïcité, ça doit s'appliquer pour l'État, pourquoi ça ne s'applique pas pour le serment des élus? Alors, c'est ce que je veux réitérer, et on le fait avec beaucoup de cœur. On y croit, et Paul Saint-Pierre-Plamondon l'avait dit pendant la campagne électorale.
Absolument.
Et les autres, les autres chefs avaient dit, c'est pas une priorité. Mais vous savez quoi? C'est devenu une priorité. Puis une fois que ça sera réglé, ben on n'en parlera plus. Et puis on a 4 ans pour débattre avec le gouvernement du Québec.
Oui. Il y a des gens qui disent, des petits esprits coquins, mais vous l'avez déjà, vous, M. Bérubé, prêté ce serment-là, prêté allégeance au roi 5 fois, si je ne m'abuse. Pourquoi maintenant ce serait différent?
Parce qu'il y a une volonté politique très forte de notre formation politique qui est davantage là qu'elle l'était autrefois, parce que le moment est venu, la population est derrière nous massivement, plus de 75%, parce qu'il y a un changement de souverain, parce qu'on a fait la laïcité aussi, avec la loi 21, pour toutes ces raisons. Alors, les gens qui disent, vous l'avez déjà fait, c'est votre meilleur argument, vous avez trouvé ça comment, vous, que l'avez déjà fait? Ils pourraient aussi taper sur des moteurs de recherche Monarchie Pascal Bérubé, et on peut remonter jusqu'à 2007 ou 2010, où j'ai fait abondamment des discours sur la monarchie britannique. Je ne suis pas un sujet de Sa Majesté. Je suis un député à l'Assemblée nationale dans un esprit républicain. Alors, républicain dans le sens traditionnel, pas dans le sens
On avait compris. On va devoir se quitter là-dessus, mais je retiens votre phrase. Il y a 125 députés, il y en a 122 assis, il y en a 3 debout. Ça va passer à l'histoire.
J'aimerais mieux que ce soit ça le titre, parce que j'avais tout le temps des titres de choc qu'emmerdant.
Ah, ben là, c'est pas moi qui décide. Ça peut être les deux. L'emmerdeur Bérubé déclare que... Je vous taquine, Monsieur Bérubé. Je vais m'arranger pour que ce soit ça, en effet, le titre. Merci beaucoup, Monsieur Bérubé, et mes salutations à Victor Lévy-Beaulieu. Merci à Marianne Bessette à la recherche. Merci à Charlie Marchand à la réalisation et aux bonnes idées glissées par Messenger. Merci et à très bientôt.
Cube Radio.